Pastor Tony m'a donné un thème pour le message. Pour moi, c'était un cadeau mal emballé. Non, j'ai vu le thème et j'ai dit, oh, aide-moi Seigneur. Mais c'est un bon thème, c'est un très bon thème. Et je pense que nous allons être, même si c'est mal emballé pour vous, que ça nous bénit, que Dieu nous parle vraiment. Prions d'abord. Je vais essayer de tenir le micro comme il faut. Ça rend la vie d'Alfredo et les types plus facile. Seigneur, merci. Vraiment, Seigneur, merci. Parce que tu es notre héros dans l'église, Seigneur. Tu es l'homme. Tu es celui que nous, dont nous avons besoin tous les jours, toujours. Et, la seule solution pour nos vies, c'est toi, Seigneur. Merci parce que tu es au rendez-vous jour après jour. Tu nous abandonnes jamais. Et merci parce que tu envoies ta parole pour nous guérir et pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous corriger, pour nous fortifier, pour nous vivifier aussi, Seigneur, pour restaurer notre âme. Bénis cette parole, s'il te plaît, Seigneur. Dirige-moi et dirige notre écoute. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir écouter et se concentrer et entendre surtout ta voix derrière nous, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Donc, le thème, c'est une âme en bonne santé. Qu'est-ce que c'est une âme en bonne santé? Prospère, oui. Bon, on va lire le verset d'où ça vient, cette idée. C'est 2 Jean, le livre de 2 Jean, versets 2 et 3. Il y a un chapitre, donc, 2 et 3. Donc, 2 Jean, voilà. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Ah non, pardon. Attends, je me suis trompé, c'est 3 Jean, 3e épître de Jean. Voilà, verset, merci beaucoup. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Donc c'est qui? C'est Jean, l'apôtre, qui écrit à un homme qui s'appelle Gaius. On ne sait pas trop sur lui, il y a 4 Gaius mentionnés, ils sont tous différents comme personne, ou peut-être lui c'est un des 3 autres, on ne sait pas, parce qu'ils viennent tous des endroits différents. Mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Est-ce que c'est possible, Alfredo, de regarder le verset 2 dans le second, the summer, version summer? Je sais que on a une traduction summer, je crois. D'ailleurs, je profite. Alfredo et Letty, et Elias qui est pas là, qui peut pas être là tous les dimanches, il faut un énorme travail derrière. Et ce n'est pas facile. Voilà, nous sommes reconnaissants pour ça. Et aussi, nous recrutons. si jamais quelqu'un est intéressé à venir, on essaie de faire un tournus pour qu'on ne le fasse pas tous les dimanches. Parce qu'il faut venir une heure plus tôt. Voilà, donc ça demande quelque chose, mais si quelqu'un est intéressé, venez me voir. Voilà. Version summer, donc revenons au message. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois aussi, en aussi bonne santé physique que spirituelle. Donc, quand il a dit, verset 2 c'est bon, quand il a dit que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère ton âme, il y en a qui pourraient le prendre mal, pour dire, si ton âme prospère, ton corps va prospérer aussi. c'est pas forcément, c'est pas dit. Ce qui est dit, c'est que Gaius, je te connais, tu es un homme qui a une âme qui est en, tu es en bonne santé spirituelle. Et je veux aussi, je souhaite que ton corps aussi soit en bonne santé. Qui sous-entend peut-être que Gaius avait des difficultés dans son corps physique. Et l'apôtre Jean était au courant. C'est pas dit clairement, c'est spéculation. Mais ce n'est pas forcément donné que le corps va suivre l'âme dans la santé. Même si et les deux sont connectés, un cœur joyeux, une festin toujours. Non, le rire fait du bien comme les, moi j'essaie de je suis anglophone donc je lis la Bible en anglais, mais il y a un verset dans les Proverbes, laughter does good like medicine. Le rire fait du bien comme les médicaments. Voilà, le rire ça parle plutôt de l'âme. C'est depuis l'âme qu'on peut rire, si c'est un rire genuine. Et ça a un effet sur le corps. Bien sûr, il y a. Mais qu'est-ce que c'est l'âme? Donc, on va déjà parler de qu'est-ce que c'est l'âme. Parce qu'on fait beaucoup pour être en bonne santé physique dans nos vies. On a un médecin, peut-être. Médecin traitant, ah voilà, l'est-il, vous l'avez trouvé. Un cœur joyeux, un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Voilà. Voilà une bonne verset pour montrer la connexion. Mais nous, on fait beaucoup pour essayer d'être en bonne santé physique. C'est plus facile, le physique, parce qu'on le voit. On peut faire des tests, on peut faire des scanners, on peut faire des analyses, biopsies, toutes ces choses pour savoir quel est le problème qui produit tel symptôme. Et c'est bien de prendre soin de notre corps. Mais il y a aussi une autre partie de nous qui est, on va dire, plus important même. Parce que si le corps il est en bonne santé, mais l'âme ne va pas bien, c'est plus difficile, je dirais, de vivre que l'inverse. Le corps qui va mal, mais l'âme qui va bien. En fait, ce que tout le monde veut, c'est que l'âme va bien. D'être heureux, d'être content, d'être en joie, d'être en bonne santé dans notre âme. Donc, on va essayer de... On rentre un peu dans la psychologie ici, parce que le corps, on peut l'analyser, voir, il peut même, quand une personne décède, on peut même faire des dissecter le corps pour voir toutes les parties. On connaît que, on ne voit, je vois pas vos cœurs et vos poumons, mais je sais que vous en avez. Voilà, parce qu'on a étudié ça, on a pu faire toutes ces choses, ces analyses. Mais l'âme, il est plus difficile. Parce que il est invisible. Donc, il y a des choses que je vais dire qui sont théoriques, mais surtout, je vais aussi parler de la Bible et ce que la Bible dit. Mais déjà, on voit en 1 Thessaloniciens, et on peut tourner 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on voit dans la Bible que l'homme est plus que son corps. Il est corps, voilà, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'esprit, notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc déjà, on voit, il y a le corps, ce qu'on voit, et il y a l'âme, et il y a un esprit. Je ne vais pas trop rentrer dans l'esprit, côté esprit, mais L'esprit, c'est la partie qui commune avec Dieu, c'est la respiration, c'est l'esprit, c'est le mot, ça veut dire breath, le souffle. Mais c'est, voilà, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Et l'âme, tout le monde, dans la psychologie biblique, et je fais la pub du cours, d'un livre qui existe en français déjà. Qui a le livre qui s'appelle « Comme prospère ton âme ». Que ton âme prospère. Voilà, il y a quelques-uns qui ont ce livre qui a été écrit en français par ITS Paris, une église sœur à Paris, qui ont une maison d'édition. Et c'est une accumulation, compilation d'un cours qui s'appelle Bible Psychology, psychologie biblique, qui est disponible gratuitement en ligne sur open.mbcs.edu. Pardon, je parle en anglais parce que si vous n'êtes pas anglophone, vous n'allez pas pouvoir comprendre de toute façon. C'est en anglais. Mais c'est un cours que nous avons pu suivre, ma femme et moi. Et c'est un très bon cours. Mais ce livre, c'est basé sur ce cours, c'est juste pour dire ça. Il y a un livre qui existe en français, il est disponible dans la maison de la Bible, je crois, pour être commandé au moins, « Quand prospère ton âme », et c'est la psychologie biblique. Ça, moi, je vais pas parler de tout ça, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce cours. Et dans ce cours, l'esprit d'un non-croyant est mort. Et l'esprit d'un croyant est vivifié. Dieu nous a rendus vivants dans notre esprit. Et nous avons le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit par notre esprit que nous communions avec Dieu. Nous pouvons communier avec Dieu, avoir une relation avec lui, prier. Voilà. Mais, l'esprit d'un non-croyant, c'est délicat. Je veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est pas facile. Comme j'ai dit, c'est des choses invisibles. Des fois, donc, deuxième chose sur l'âme, c'est la partie, en gros, on parle du parti invisible de l'homme. Immatériel. On peut pas faire chirurgie de l'âme et par un chirurgien. Et c'est l'homme intérieur, la Bible parle de l'homme intérieur. L'homme extérieur dépérit, l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, vers la fin, je crois que c'est verset 15 ou 16. L'homme extérieur dépérit, mais l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Et il y a l'homme intérieur de tout le monde, pas juste les chrétiens. Tout le monde a cet homme intérieur, cette âme. Et dans la psychologie biblique, et même dans la psychologie générale, je ne sais pas d'où cette chose vient à sa source, cette idée, mais il y en a qui ont essayé de catégoriser l'âme dans 5 parties. Une, c'est les pensées. Voilà, nous avons des pensées. Et une autre, c'est des émotions, nos ressentis. Une autre partie, c'est la volonté. Je fais des décisions, j'ai des souhaits, j'ai des désirs. Je décide la volonté. La conscience de soi, celui-là est difficile pour moi d'expliquer, mais je pense d'être conscient. Ce que ça veut dire, c'est d'être conscient. Je suis conscient de mon entourage, je suis conscient de moi-même. D'une certaine façon. Et aussi la conscience dans le sens, l'endroit où je juge quelque part, où je discerne. Je juge moi-même, je peux m'excuser ou m'accuser, Ma conscience peut m'excuser ou m'accuser, ça c'est dans la Bible. Notre conscience peut être souillée, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose, péché, comme nous tous, et la conscience, c'est comme une grosse tache sur ma chemise. La conscience est souillée, et je suis conscient de ça. Je ne peux pas me débarrasser de ça. C'est une conscience souillée. Et il peut être purifié aussi, mais on va arriver là. Et conscience, voilà. Mais ça peut aussi dire, cette personne, ma conscience est bien avec cette personne. Oui, c'est un bon gars. Il est vrai. Ou ma conscience peut être offensée ou blessée par peut-être l'hypocrisie ou je vois ma conscience n'atteste pas ce que cette personne est en train de faire. Voilà. Ça aussi, c'est un peu la faculté de discernement aussi. La conscience. Et voilà. Juste, l'âme est définie. Ce qu'on veut dire, c'est que notre corps a été malade des fois. Tout le monde a vécu la maladie, je pense, ici. Mais on a tous aussi été malades dans notre âme, d'une manière ou d'une autre. Voilà le verset. L'homme extérieur, l'homme intérieur. Nous avons tous été chopés quelque chose dans notre âme. Et je veux parler d'une âme en bonne santé, mais avant de parler d'une âme en bonne santé, on va un peu explorer, on va descendre un peu dans les abîmes pour voir ce que c'est une âme en mauvaise santé. Et la bonne nouvelle déjà, c'est que Dieu, par son Saint-Esprit, et nous, les enfants de Dieu, ont le privilège d'avoir des âmes en très bonne santé. On a cette opportunité, cette possibilité et privilège. C'est vraiment disponible pour nous de vivre en bonne santé dans nos âmes. D'être guéri, voir le médecin des médecins, le grand physicien, qui sait soigner l'âme, qui sait opérer dans l'âme. On a vu on voit dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et il divise entre l'âme et l'esprit. Maintenant, voilà, je prétends pas comprendre exactement ce que ça veut dire. Mais il va au fond de nous et il traite là où il y a l'immatériel. Parce que peut-être à l'époque, une épée ou un couteau double tranchant était utilisé pour faire des opérations, enlever une flèche ou quelque chose, une balle. Bon, il n'y avait pas des balles à l'époque, mais peut-être il pourrait avoir quelque chose à enlever et en couper. Et Dieu, il peut faire ces opérations en nous. Donc, âme en mauvaise santé, les pensées. 2 Corinthiens 4, 3, 4, version Darby. Et si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. Donc, il y en a qui ont les pensées aveuglées. Par qui? Satan, le dieu de ce siècle, celui qui règne, qui est suprême dans le cosmos diabolicos, on dit, le système de ce monde. Et il aveugle les pensées des gens, des incrédules, ceux qui ne croient pas en Jésus. Et ils ne voient pas l'évangile. Est-ce que ça vous a étonné des fois de rencontrer des gens et L'évangile, ça veut rien dire. Pour eux, 2 Corinthiens 3, 15 à 16, je ne vais pas le lire, mais ça parle de... C'est juste avant ce verset, et ces deux versets qu'on a lus, c'est qu'il parle des Juifs, quand les Juifs incrédules, dans le contexte, en Jésus, incrédules vis-à-vis de Jésus, quand Moïse et Lou, la Bible, il y a une voile sur leur cœur. Un voile. Et ils ne voient pas dedans. C'est les pensées. OK, ils lisent, ils ont des pensées, mais il y a une voile. Il y a un aveuglement dans les pensées. Et Romains 8, 5 à 7, il parle de la pensée de la chair. C'est la mort. La pensée de la chair, c'est la mort. L'homme naturel, sans Jésus-Christ, sans la régénération qui vient par la nouvelle naissance lorsque nous croyons en Jésus. La pensée de la chair, et nous avons la chair qui habite en nous, les chrétiens aussi, mais la pensée de la chair, c'est la mort. Et donc, les pensées en mauvaise santé. Voilà, ça c'est juste quelques versets, exemples. La volonté. Déjà, l'incrédulité vis-à-vis de Jésus, c'est une décision. C'est une décision. Dieu initie la volonté, il dit non. C'est une décision de la volonté. La préservation de soi. La volonté d'une âme en mauvaise santé, c'est tout pour préserver ma vie. Je veux m'élever moi et abaisser les autres. Je veux marcher sur les autres pour grimper dans ce monde. Je veux protéger ma vie. Ça, c'est une volonté en mauvaise santé. Oui, l'insuffisance. Dans ce livre, je pense qu'il parle... Dans le cours, il parlait de deficit motivation en anglais. C'est une motivation. Je suis motivé par un manque. Motivation déficiente. Il me manque quelque chose. J'ai un trou dans le cœur et je cherche à le remplir. Donc ma volonté est dirigée par cette recherche de combler le manque qui est en moi. Ça, c'est une âme en mauvaise santé. C'est une recherche éternelle. Pas éternelle, mais une recherche qui n'arrive jamais au bout, vraiment. Même ceux qui arrivent dans ce monde, ils n'arrivent pas. Mick Jagger, « I can't get no satisfaction. » Je ne peux pas trouver de la satisfaction. Ça, c'est l'âme en mauvaise santé. L'âme en bonne santé, il est satisfait en Dieu. Mais voilà. Désolé, c'est un peu déprimant, ça va? Il faut juste prier que j'arrive à passer à l'âme en bonne santé avant qu'il soit midi, parce que sinon vous allez tous partir déprimés. Donc. Et s'il vous plaît, patientez. Mais l'âme, la volonté qui est de l'âme en mauvaise santé va tourner vers des choses. Il va tourner vers, il y a ces convoitises qui le poussent. Il y a, pour combler ses manques, des mauvaises décisions de vie. Le moralisme peut être une chose que fait l'âme en mauvaise santé. Je vais essayer de m'améliorer. Allez, je vais devenir religieux, je vais aller à l'église tous les dimanches, tous les mercredis soirs, je vais le faire. C'est ça qui va... Je vais devenir des résolutions en fin d'année, des nouvelles résolutions. Je vais faire du sport, je vais m'améliorer. Je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de crier sur les gens. Je vais arrêter de... Peu importe, mettons tout ce que vous voulez là-dedans. Ça, c'est... quelque part, une âme en mauvaise santé. Peut-être ça vous choque d'entendre ça dans l'église. Non, mais nous, on entend tout le temps. Mais c'est une motivation déficiente. Ce n'est pas la plénitude, c'est déficient. J'essaie de combler moi-même quelque chose qui est vide en moi. Et ça n'aboutit à rien de bon. Même il y en a qui cherchent, ils s'ouvrent aux mauvais esprits avec leur volonté. Ils s'ouvrent aux mauvais esprits. Dieu peut guérir, il peut couper l'alliance que les gens ont fait avec l'enfer. Mais c'est compliqué quand même. Il vaut mieux pas y aller. L'envie, le manque de pardon. L'âme en mauvaise santé va pas pardonner les gens dans sa volonté. Les émotions. Il peut y avoir de la joie ou le plaisir, mais c'est basé sur des choses temporaires et des situations. J'ai une promotion à mon boulot, j'ai de la joie. Mais c'est une joie de bas niveau. C'est une joie de bas niveau. Il y a des joies qui viennent de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, qui sont d'une autre qualité. C'est vraiment, et c'est basé sur des choses éternelles aussi, qui ne changent pas. Donc c'est pas une joie qui est fragile, dans le sens que, la nature de cette joie est éternelle. Et même si on le perd, on revient vers la même joie. Et si on perd expérimentalement, je dis, ok, je vais essayer d'aller plus vite, mais il y a des choses comme la jalousie, les émotions, la honte, la crainte, l'anxiété, la dépression, le désespoir, l'amertume, Hébreux 12, 15, l'amertume de l'âme. C'est même dans l'esprit, là, on touche à l'esprit, là. Un esprit amer, la Bible en parle. Et qui peut supporter un esprit amer? Ça, c'est dur, quoi. Mais la haine, le colère, la haine. Je commence à blâmer les autres. Et mes émotions suivent. Les émotions suivent. C'est âme en mauvaise santé. La conscience de soi, mauvaise image propre. Ou une image propre trop élevée, ou les deux, ça fait le change entre les deux. Ma justice propre et de même temps je pense mal de moi-même. Je fluctue. Ça fluctue entre les deux. Je me compare aux autres. Je suis occupé avec moi-même. L'insécurité, la conscience, bon, on a déjà dit que la culpabilité, le regret, c'est horrible ces choses dans l'âme. C'est horrible de vivre ça. Ah. Recherche de justification de soi, la conscience, la personne qui veut toujours se prouver. Voilà, regardez, je suis bien là. Mais c'est l'âme en mauvaise santé. S'excuser, juger les autres, en permanence, juger les autres, accuser les autres, blâmer les autres, être offensé, être blessé, on a dit, 1 Corinthiens 8, 12, ou une conscience cautérisée en 1 Timothée 4, 2, ça parle de conscience qui, cautérisée, ça parle de ce qu'on fait avec c'est du métal chaud qu'on met sur les vaches pour les marquer un peu. La marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Mais je pense que ce que ça veut dire, c'est que tellement de fois j'ai violé ma conscience, maintenant c'est insensible. Je peux faire les mêmes choses qui avant étaient... Il y avait une alarme qui sonnait en moi quand je le faisais. Et maintenant, c'est juste une petite. C'est très, on n'entend pas. C'est même, j'y vais et je sens rien. Je fais seulement. Je suis, voilà. Là, le temps, il passe et je crains pour vous que je vais pas aller très loin. plus loin. Juste un exemple, Actes 15, verset 24, ça parle d'une âme qui est ébranlée par le légalisme. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Le mot ébranlé, ça parle de genre de déménager les âmes, mais même il y a l'idée de piller et ravager l'âme. Et c'est un peu comme ce que Hamas, ils ont fait le 7 octobre l'année passée. Ils ont pillé dans les villages. Ils ont ravagé. Et c'est, ça me parle de le légalisme. Parce que comment ils ont fait ça? En disant aux gens qu'il faut être circoncis et garder la loi pour être sauvé. Et donc ils ont mis un joug sur les gens qui n'étaient pas censés être mis. Et ça a ravagé l'âme de ces gens. Et l'âme peut être en très mauvaise, l'âme d'un chrétien, mais qui est troublée par le légalisme, peut être en très mauvaise santé. Le légalisme peut détruire mon âme, l'âme d'un chrétien. Et vraiment, l'âme ravagée. Et nous, on veut pas ça, n'est-ce pas? Et en 1 Pierre 2, 11, ils disent que les convoitises, ils font guerre à l'âme. Les convoitises de la chair font guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et il y a différentes convoitises, mais je pense pas que je vais... J'ai une liste de 6 convoitises. Je vais pas vous donner maintenant, parce que... je vais juste les citer vite fait, mais je vais pas commenter. Convoitise d'orgueil. Maintenant, il y en a plus. Ça, c'est pas une liste exhaustive, c'est une essai de les catégoriser. Convoitise d'orgueil. Convoitise de puissance. Convoitise d'approbation. Convoitise matérialiste. Convoitise sensuelle. Convoitise meurtrier comme le diable qui Jésus a dit, ça vient de Jean 8, 44. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes comme votre père le diable, et les convoitises de votre père vous allez faire. En gros, il est meurtrier dès le début. Vous allez me tuer, quoi. Ça, c'était une convoitise un peu comme, moi je dirais, Hamas, une convoitise meurtrier. Ce qui s'est passé là. Blâmer les autres, la haine, se venger. Âme en mauvaise santé, quoi. Âme en très mauvaise santé. Et finissant par... Et c'est de là où viennent les guerres dans notre... Et c'est Jacques 4, verset 1 à 5. Les guerres viennent de tout ça. Esaïe 5, la guerre vient des hommes avec des âmes en mauvaise santé. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans ce monde. Esaïe 57, 20 à 21. J'ai fait travailler à Alfredo beaucoup ce matin. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Donc, maintenant, on va parler d'une âme en bonne santé. Et on a 7 ou 10 minutes. OK? Ça va aller? Vous n'avez pas l'air déprimé, donc c'est bien. Je ne vois pas des gens fondus en larmes. Voilà. Quelques points sur une âme en bonne santé. Un des points vient du passage qu'on a lu au début, en 3 Jean, verset 3. Où il dit, OK, ton âme prospère, Gaius. Et comment il voit que son âme prospère? Parce que les frères qui sont venus de toi, ils ont témoigné de la vérité qui est en toi. Donc, la vérité en nous fait prospérer notre âme. Mettre notre âme, une âme avec la vérité en lui, c'est une âme en bonne santé. Donc la vérité, c'est le premier point. J'ai 3 points sur l'âme en bonne santé. Et la vérité qui est en toi, c'est 3 Jean, verset 3. Psaume 51, versets 5 et 6, je vais le lire. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc, Dieu veut que la vérité soit dans le cœur. Psaume 51, 5 et 6. Voilà. Dans des versions françaises, ça peut être 7 et 8. Ça dépend parce qu'il décortique différemment le psaume. Mais, la vérité au fond du cœur. La vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Jésus qui prie au Père. Ta parole est vérité. Donc, comment je peux avoir la vérité dans mon cœur, à l'homme intérieur? Bah, il y a une sanctification qui se fait par cette vérité et sa parole est vérité. Donc, la parole de Dieu. Et sanctification, ça veut dire quoi? Mettez-les à part. Parce que je suis dans ce lot avec le monde, avec nos âmes en mauvaise santé. Mais la vérité me met à part. Ça me sanctifie pour Dieu. Le mot sanctification, ça vient aussi du mot saint. Holy. Nous sommes les saints de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est autre chose que le monde. Jésus, il est à part, il est saint. Et nous, il nous met à part par la sanctification dans nos vies et il nous sanctifie par sa parole. Et comment il nous enseigne sa parole? Jean 16, verset 13, c'était juste avant que Jésus prit ça. Il a dit aux disciples, Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il nous conduit dans la vérité. Il nous enseigne la vérité. Il le met au fond de nos cœurs. Et nous, on le reçoit, bien sûr, pour que ça soit efficace. Prochaine chose. Et la vérité sur quoi? Bon, la vérité sur tout, mais sur qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Jésus, c'est la vérité, c'est une personne, c'est une relation, vraiment. Nous avons une relation avec la vérité. Prochain point, la grâce. Qu'est-ce qui peut rendre notre âme en bonne santé? C'est la grâce. La vérité et la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17 ou 14? 17. Merci, Georges. Et Jacques 4, 6, c'est un verset qui suit ce que j'ai cité un peu, l'idée de guerre créée par les convoitises de l'homme. Et maintenant, il dit, il accorde au contraire, aux convoitises qui cherchent à se combler et à marcher sur les autres pour se combler. Il accorde au contraire une grâce plus excellente que ce qu'ils cherchent, aussi. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que c'est une erreur de frappe, ça? Ok, aux orgueilleux, mais voilà, ça me réconforte dans mon français. Non, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, c'est accepter ce que je dis. Dieu dit, la vérité vient, j'accepte ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Je me soumets à ça. Soumets à ça. Quand les pensées sont... Attends, Jacques 1, 21. Est-ce que vous m'accordez quelques minutes de plus? Si vous devez partir à midi, partez. Mais je vais essayer de vite résumer, parce que voilà, c'est bien de résumer, de conclure. Jacques 1, 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, avec humilité quelque part, recevez la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes, délivrer. Le mot sauver, sozo, c'est l'idée de délivrance. Et Dieu, il délivre nos âmes. Des fois, on se trouve dans un trou dans notre âme. On se trouve dans une des choses que j'ai dit avant, d'une âme malade. On chope une maladie et on n'arrive pas à s'en défaire. Ça peut être la blâme, ça peut être la colère avec quelqu'un ou des gens, ou nous-mêmes, la culpabilité, on n'arrive pas. Et ça accable notre âme. Et Dieu, mais Dieu, par sa grâce, parce que la grâce, ça parle de l'intervention de Dieu. C'est pas juste une théorie, Dieu est gracieux, vous voyez. La grâce, c'est quand Dieu rencontre l'homme, et gracieusement, sans mérite, bien sûr, mais sa parole peut délivrer, par sa parole, il délivre nos âmes. Il nous sort du puits. Psaume 61, verset 2, version Darby. « Du bout de la terre, je crierai à toi. Dans l'accablement de mon cœur, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. » C'est trop haut pour moi, j'arrive pas à grimper sur ce rocher. Mais Dieu, il me conduit. Et je suis plus accablé dans mon cœur. Je suis délivré par sa grâce. Hébreux 13, 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. La confiance dans la grâce de Dieu et dans l'œuvre accomplie de Jésus, au lieu d'une attitude légaliste où on a toujours l'impression de manquer de quelque chose. On a parlé de cette motivation de manque. La grâce, c'est qu'il ne me manque rien. Je suis parfait en Christ. Ma conscience est purifiée par le sang de Christ. Hébreux, même livre, chapitre 9, verset 14. Ma conscience est purifiée des œuvres mortes. Quand la conscience est souillée, je fais des œuvres mortes pour essayer d'enlever la tâche. Et je me fatigue parce qu'il reste. Et le légalisme, c'est des œuvres mortes. C'est la religiosité. Bien souvent, c'est les œuvres mortes. Mais la pure religion, il y a une religion pure, mais ça vient d'une plénitude. Je suis pardonné, je suis sauvé, merci Seigneur, ma conscience est purifiée. Ah, et Dieu, il me dit dans l'oreille, va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Fais ceci, pardonne cette personne, je pardonne la personne. Et il me donne une grâce pour le faire. Et je vis pas dans les œuvres mortes, mais dans l'amour et dans une relation avec Dieu qui est pas motivée par un désir de me satisfaire. Et je suis déjà satisfait. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis reconnaissant. Mais maintenant Dieu me donne quelque chose à faire. Ce n'est plus une œuvre morte. Je saute quelques trucs, mais troisième point, dernier point, le repos. On a dit une âme en bonne santé, la vérité, la grâce et le repos. Jésus a dit, Matthieu 11, 28 à 30, il y a sûrement plein d'autres choses qui peuvent être dites, mais c'est ça que j'ai eu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus ne nous stresse pas. Il est doux et humble de cœur. Il nous instruit de cette façon-là. Et nous trouvons du repos pour nos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça ne veut pas dire la passivité. On s'assoit tous sur nos fauteuils, on ne fait rien de nos vies. Je pense que la personne qui vit là-dedans, qui a une âme en bonne santé, fait beaucoup, peut-être. Et c'est des choses ciblées et qui comptent. Parce que c'est Dieu qui est à la source. Mais il y a un repos à la base. C'est pas agité, paniqué. Je peux, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ça c'est Ésaïe 30, 15. Donc, je vais couper là, mais en gros, notre âme peut être, et bien souvent, merci Seigneur, en bonne santé. Il peut être vite en mauvaise santé. Je peux vite tomber malade dans mon âme. Je le sens. Parfois, je sens le début de la maladie qui rentre. Mais Dieu, par sa grâce et sa vérité, il m'élève, il délivre. Ses consolations réjouissent mon âme. Ça, c'est en psaume 94, verset 19. Quand mes pensées s'agite en foule au-dedans de moi. Tes consolations réjouissent mon âme. Dieu, il restaure mon âme. Psaume 23. Il restaure mon âme. Et voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne la vérité. Dieu qui nous donne la grâce. Et pour vivre ce vie dans le repos, où notre âme soit en bonne santé. Et on a les fruits de l'esprit, j'ai pas cité. Mais la joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, diligence dans l'âme. Et on peut faire des décisions et ça tient. mais beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites. Psaume, je finis avec un verset. Psaume, lequel je finis? Psaume 86, verset 2, Darby. Garde mon âme car je suis un de tes saints. Je suis un saint de Dieu et je prie ça souvent. Seigneur, garde mon âme car je suis. En anglais c'est keep my soul for I am holy. God, Dieu, je suis saint, je suis ton enfant, je suis sanctifié par toi. Garde mon âme, garde mon âme. Parce qu'il y a plein de choses qui viennent contre mon âme. Et l'état de mon âme, et l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, verset 7. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne et nous donne tous une âme en bonne santé et qui garde nos âmes en bonne santé pour pouvoir aussi le glorifier dans cette vie. Merci pour votre patience. Merci Seigneur. Amen. Okay.